Ainsi, il aurait été la nuit une seconde école en laquelle il recordait les enseignements de Philétas. Le lendemain, au point du jour, ils menèrent leurs bêtes au champ, s'entrebaisèrent l'un l'autre aussitôt qu'ils se virent, ce qu'ils n'avaient que fait encore, et croisant leurs bras, s'accolèrent, mais le dernier remède, ils n'osaient se dépouiller et coucher nus. Aussi eussent été trop hardiment fait, non pas seulement à jeune bergère, telle qu'était Chloé, mais même à lui, chevrier. Ils ne purent donc, la nuit suivante, reposer non plus que l'autre, et n'eurent ailleurs la pensée qu'à remémorer ce qu'ils avaient fait et regretter ce qu'ils avaient omis à faire, disant ainsi en eux-mêmes « Nous nous sommes baisés et de rien ne nous a servi. Nous nous sommes l'un et l'autre accolés, mais rien ne nous en est amendé. Il faut donc dire que coucher ensemble est le vrai remède d'amour. » Il le faut donc essayer aussi, car pour sûr, il doit y avoir quelque chose plus qu'au baiser. » Après semblables pensées et leurs songes ainsi qu'on peut croire, furent d'amour et de baiser, et ce qu'ils n'avaient point fait le jour, ils le faisaient lors en songeant, couchés nu à nu. Dès le fin matin donc, ils se levèrent plus épris encore que devant, et chassant avec le sifflet leurs bêtes au champ, leur tardait et qu'ils ne se trouvaient pour répéter leurs baisers, et de si loin qu'ils se virent, coururent en souriant l'un vers l'autre, puis s'entrebaisèrent, puis s'entracolèrent, mais le troisième point ne pouvait venir, car Daphnis n'osait en parler, ni ne voulait Chloé commencer, jusqu'à ce que l'aventure les conduisît à se faire en cette manière. Ils étaient sous le chêne, assis l'un près de l'autre, et ayant goûté du plaisir de baiser, ne se pouvaient saouler de cette volupté. L'embrassement suivait quant et quant pour baiser plus serré, et en ce point, comme Daphnis tira sa prise un peu trop fort, Chloé, sans y penser, se coucha sur un côté, et Daphnis, en suivant la bouche de Chloé pour ne perdre l'aise du baiser, se laissa de même tomber sur le côté, et reconnaissant toutes deux en cette contenance la forme de leur songe, longtemps demeurèrent couchés de la sorte, se tenant bras à bras aussi étroitement, comme ils eussent été liés ensemble, sans y chercher rien davantage, mais pensant que ce fut le dernier point de jouissance amoureuse, consumèrent en ces vaines étreintes la plus grande partie du jour, tant que le soir les y trouva. Et lors, en maudissant la nuit, ils se séparèrent et ramenèrent leurs troupeaux au tecte. Et peut-être, enfin, eussent-ils fait quelque chose à bon escient, n'eût été un tumulte qui survint en la contrée. Des jeunes gens riches de Bétime, ne voulant passer joyeusement le temps des vendanges et s'aller ébattre quelque peu au loin, tirèrent un bateau en mer, mirent leurs valets à la rame, et s'en vinrent dans les parages du territoire de Mytilène, pour ce qu'il y a partout de bons abris pour se retirer, une belle plage pour se baigner, et ébordés de beaux édifices avec jardins, parcs et bois, que les uns nature a produits, les autres la main de l'homme. En voguant ainsi au long de la côte, et descendant ici et là où désir leur en prenait, ils ne faisaient mal quelconque ni déplaisir à personne, mais s'y battaient entre eux à divers passe-temps. Tantôt avec des hameçons attachés d'un brin de fil au bout de quelques longs roseaux, ils pêchaient et de dessus un écueil jeté fort avant en la mer des poissons qui hantent autour des rochers, tantôt prenaient avec leurs chiens et leurs filets les lièvres qui fuyaient les vignes pour le bruit des vendangeurs, ou bien ils tendaient aux oiseaux, trouvant temps et lieux favorables et avec des lacs, courant, prenait des oies sauvages, des albans, des outardes et autres tels gibiers de plaine, dont ils avaient, outre le plaisir, de quoi fournir à leur repas. S'il leur fallait quelque chose plus, ils l'achetaient au prochain village, payant le prix et au-delà. Il ne leur fallait que le pain et le vin, et le logis aussi, car ils ne trouvaient pas qu'il fût sûr, étant la saison de l'automne, de coucher en mer, et à cette cause, ils tiraient la nuit leur bateau à terre, peur de la tourmente pendant qu'ils dormaient. Mais quelques paysans de l'alentour, ayant affaire d'une corde dont on suspend la meule à presser le raisin, étant la sienne par aventure usée ou rompue, s'en vint de nuit au bord de la mer, et, trouvant le bateau sans garde, délia la corde qui le liait, l'emporta en son logis, et s'en servit à son besoin. Le matin, ces jeunes gens cherchèrent un peu querelle. Non. Le matin, ces jeunes gens cherchèrent partout leur corde, mais nul ne confessait l'avoir prise. Par quoi, après qu'ils eurent un peu querellé avec leurs hôtes, ils tirèrent outre, ayant fait environ 2 lieues, vinrent aborder à ces champs où se tenaient Daphnis et Chloé, pour ce qu'il y avait, leur sembla-t-il, belle plaine à courir le lièvre. Or, n'avaient-ils plus de cordes pour attacher leur bateau? Et à cette cause, prirent du franc osier vert, le plus long qu'ils purent finer, le tordirent et en firent une harpe dont ils lièrent leur bateau à terre, puis, lâchant leurs chiens, se mirent à chasser et tendirent leur toile au passage qu'ils trouvèrent plus à propos. Ces chiens, en courant çà et là et aboyant, effrayèrent les chèvres de Daphnis, lesquelles abandonnèrent incontinent les coteaux et s'enfuirent vers la marine, là où, ne trouvant rien à brouter parmi le sable, aucune plus hardie que les autres s'approchèrent du bateau et rongèrent la harpe d'osier vert dont il était attaché. La mer était un peu émue d'un vent de terre qui se levait, mais le bateau, une fois délié, et les vagues le poussèrent, l'éloignèrent du bord et le portaient en mer. De quoi les chasseurs s'étant aperçus, les uns accoururent au rivage, les autres rappelèrent leurs chiens, et tous ensemble menaient tel bruit que les gens de l'alentour, pâtres, vignerons, laboureurs, les entendant, vinrent de toutes parts, mais ils n'y purent que faire, car le vent, fraîchissant toujours de plus en plus, mena la barque au gré du flot si roide et si loin qu'elle fut tantôt hors de vue. Par quoi ces jeunes gens dolents, outre mesure, perdant leur bateau, bien et tout, cherchèrent le chevrier qui devait garder les chèvres, et trouvant là Daphnis parmi les regardants, en chaud de colère, commencèrent à le battre et à le vouloir dépouiller. Même il y en eut un d'entre eux qui détacha la laisse dont il menait son chien et prit les 2 mains à Daphnis pour les lui lier derrière le dos. Lui, comme il le battait, criait, implorait l'aide d'un chacun, mais surtout s'appelait à son secours Lamon et Drias, lesquels accourus, tous deux verts vieillards, ayant les mains rudes, endurcis du labeur des champs, prirent très bien sa défense contre les jeunes Métimniens, en leur remontrant qu'il fallait entendre du moins ce garçon pour voir s'il avait tort, et que chacun dit ses raisons. Ceux de Métime ne l'acceptèrent, et d'un commun accord on élut pour arbitre le bouvier Philétas, à cause que c'était le plus ancien qui se trouvait là présent, et qu'entre ceux de son village il avait le bruit d'être homme de grande foi et loyauté. A donc les jeunes gens, prenant la parole, firent en termes courts et clairs leur plainte de telle sorte devant le juge bouvier. Nous étions descendus en ces champs pour chasser et avions attaché notre barque au rivage avec une harpe d'osier vert, puis nous nous étions mis en quête avec nos chiens, et cependant les chèvres de celui-ci sont venues, ont mangé l'osier dont notre bateau était attaché, et par ainsi l'ont détaché. Vous-même l'avez pu voir emporté en pleine mer. Et ce qu'il y a dedans, perdu pour nous, combien pensez-vous qu'il vaille? Combien d'habits et d'équipages? Combien de beaux harnois pour nos chiens? Et de l'argent, plus qu'il n'en faudrait pour acheter tous ces champs? En récompense de quoi? Nous voulons emmener ce méchant chevrier-ci, lequel entend si mal le métier dont il se mêle, que de hanter avec ses chèvres au long des plages de la mer, comme s'il était le marinier. Voilà ce que dirent les Métimniens. Daphnis était tout moulu des coups qu'il avait reçus, mais, voyant Chloé présente, il ne s'étonna de rien et leur répondit franchement. « Je garde bien mes chèvres, et il n'y a personne en tout le village qui se soit jamais plaint que pas une d'elles ait rien brouté en son jardin, ni rompu ou gâté un bourgeon dans sa vigne. Mais ceux-ci eux-mêmes sont mauvais chasseurs, et ont des chiens mal appris, qui ne font que courir çà et là et aboyer tant et si fort qu'ils ont effarouché mes chèvres, et les ont chassées de la plaine et de la montagne vers la mer, comme eusse pu faire les loups. Or, à présent, elles ont mangé quelque osier, mais pouvaient-elles, mis ces sables, brouter le thym ou le serpolet? Leur bateau est péri en mer, ou qu'ils s'en prennent à la tourmente. Mes chèvres n'en sont pas cause. Voir, mais il y avait dedans tant de biens, des habits, de l'argent. Qui serait si sot de croire qu'un bateau portant tout cela n'eût pour l'attacher qu'une harde d'osier? » Et en disant ces paroles, il se prit à pleurer et fit si grande pitié à tous les assistants, tellement que Philétas, qui devait donner sa sentence, jura le dieu Pan et les nymphes que Daphnis n'avait point de tort, ni ses chèvres non plus, et que la faute, si faute y avait, était au vent et à la mer, desquels il n'était pas juge pour la leur faire réparer. Ce néanmoins le bon Philétas ne sut si bien dire que les Métimniens s'en contentassent. Mais de rechef, en grande fureur, prirent Daphnis et le voulaient lier pour l'emmener, n'eût été que les paysans de ce mutiné se ruèrent en criant sur eux comme une volée d'étourneaux et leur ôtèrent des mains Daphnis, qui se défendait bien aussi et à son tour les chargeait. Si qu'à grands coups de pierre et de bâton, ils chassèrent les Métimniens et ne cessèrent de les poursuivre qu'ils ne les eussent menés battant hors de leur territoire. Daphnis et Chloé restaient seules. Elle eut tout le loisir de le conduire à la caverne des nymphes où elle lui lava le visage, tout souillé du sang qui lui était coulé du nez, puis tirant de sa panetière un peu de fromage et du tourteau, elle lui en fit manger, et qui plus le conforta, lui donna de sa tendre bouche un baiser plus doux que miel. Ainsi échappa Daphnis de ce danger. Mais la chose n'en demeura pas là, car ces jeunes gens de Métimne retournaient chez eux à pied, au lieu qu'ils étaient venus en un beau bateau, blessés et malmenés, au lieu qu'ils étaient partis gais et bien délibérés, firent assembler le conseil de la ville, auquel ils requirent, en habits et contenance de suppliants, être vengés de l'outrage qu'ils avaient souffert, ne disant de vrai pas un mot, de peur que s'ils eussent conté le fait comme il était allé, on se fût moqué d'eux de s'être ainsi laissés battre par des paysans, accusant hautement les Mytiléniens de les avoir pillés et pris leur bateau sans autre forme de procès, comme en guerre ouverte. Les gens de Métimne ajoutèrent aisément foi à leur dire, pour autant mêmement qu'ils les voyaient blessés. Et quand Écan, estimant chose juste et raisonnable de venger un tel outrage fait aux enfants des plus nobles maisons de leur ville, décernèrent sur le champ la guerre contre les Mytiléniens, sans leur envoyer ni héros ni déclaration, et commandèrent à leur capitaine qu'il mit promptement en mer 10 galères pour aller faire du pis qu'ils pourraient en toute leur côte. Ils pensèrent que ce ne serait pas sûrement ni sagement fait de hasarder plus grosse flotte à l'approche de l'hiver. Le capitaine, dès le lendemain, eut dressé son équipage, et usant pour moins d'embarras de ses soldats même au lieu de rameurs, alla fourrager toutes les terres des Mytiléniens qui étaient voisines de la mer, là où il prit force bétail, force grain, vin en quantité, pour ce qu'il n'y avait guère que vendange était faite, et grand nombre de prisonniers, gens qui travaillaient à ses champs. Et aussi, s'en vint débarquer où gardaient leurs bêtes Daphnis et Chloé, courut le pays, ravit et pilla tout ce qu'il y trouva. Daphnis, pour l'heure, n'était pas avec son troupeau. Il était dans le bois à cueillir de la ramée verte pour donner l'hiver aux chevreaux. Et, voyant du haut des arbres les ennemis dans la plaine, se cacha au creux d'un vieux chêne. Chloé, qui était demeurée avec les troupeaux, se cuida sauvée de vitesse et se jeta comme en un asile dans l'antre des nymphes, poursuivit jusqu'au lieu même, et là, priait au nom des nymphes ses soldats de ne vouloir faire déplaisir ni à elle ni à ses bêtes. Mais en vain, car les gens de Métibne, après avoir fait plusieurs vilenies et moqueries aux images des nymphes, l'emmenèrent, elle et ses bêtes, en la chassant devant eux à coups de houssine comme une chèvre ou une brebis, et voyant qu'ils avaient déjà plein leur vaisseau de toutes sortes de butins, ne voulurent plus tirer outre, mais reprirent la route de leur maison, craignant l'hiver et ses ennemis. Non, craignant l'hiver et les ennemis. Ainsi s'en allaient les Métimniens, force de rames, faisant peu de chemin, car le temps fut si calme qu'il ne tira ni vent ni haleine quelconque. Et Daphnis, sorti de son creux, après que tout ce bruit fut passé, s'en vint dans la plaine où leurs bêtes avaient coutume de pâturer, et n'y voyant plus ni ses chèvres, ni les brebis, ni Chloé, mais seulement les chants tout seuls et la flûte de laquelle Chloé se saoulait ébattre jetée là, se prit à crier et pleurer, et en soupirant amèrement, s'encourait tantôt sous le fouteau à l'ombre duquel ils avaient accoutumé de ce soir, tantôt au rivage de la mer pour voir s'ils la trouveraient point, et tantôt dans l'antre des nymphes où ils l'avaient vu fuir, et là, se jetant par terre devant leurs images, se complaignit à elle, disant qu'elle lui avait bien failli au besoin. « Chloé, disait-il, vient d'être arrachée de vos autels et vous avez bien eu le cœur de le voir et l'endurer. Elle qui vous a fait tant de beaux chapelets de fleurs, elle qui vous offrait toujours du premier lait, elle qui vous a donné ce flageolet même que je vois ici pendu. Jamais loup ne me ravit une seule de mes chèvres, et les ennemis m'ont maintenant ravi le troupeau entier, et ma compagne bergère aussi. Mes chèvres, ils les tueront, et écorcheront un continent. Les brebis, ils les feront des sacrifices aux dieux. Et Chloé demeurera en quelque ville loin de moi. Comment oserais-je à cette heure m'en aller de vers mon père et ma mère, sans mes chèvres, sans Chloé, pour être désormais misérable manœuvre, car il n'y a plus chez nous de bêtes que je puisse garder. Mais non, je ne bougerai d'ici, attendant la mort ou d'autres ennemis qui m'amènent aussi. Hélas, Chloé, es-tu en même peine que moi? Te souvient-il de ces chants? As-tu point de regrets aux nymphes et à moi? Ou si te réconfortent nos brebis et nos chèvres, prisonnières avec toi? Comme il achevait ces paroles, le cœur gros de chagrin, de pleurs, le voilà pris d'un profond somme, et lui apparaissent les trois nymphes, en guise de belles et grandes femmes, demi-nues, les pieds sans chaussures, les cheveux épars, en tout semblables aux images. S'il lui fut avis dès l'abord qu'elles avaient pitié de lui, puis d'elles, le trois, la plus âgée, lui dit en le réconfortant, « Ne te plains point de nous, Daphnis. Nous avons plus de soucis de Chloé que tu n'as toi-même. Nous en prîmes pitié dès lors qu'elle venait de naître, et abandonnée en cet antre, l'avons fait élever et nourrir. Car afin que tu le saches, rien n'a de commun Chloé avec Dryas et ses brebis, ni toi non plus avec Lamon. Et quant à ce qui est d'elle, nous y avons déjà pourvu. » Elle n'ira point prisonnière avec ses soldats à Métimne, ni ne sera partie de leur butin. Pan, qui est là sous ce pin, et que vous n'en aurez jamais seulement de quelques fleurettes, c'est lui, que nous avons prié de vouloir secourir Chloé, parce qu'il fréquente volontiers entre gens de guerre, et lui-même a conduit des guerres, quittant le repos des champs. Il marche dès 7 heures, dangereux ennemi, contre ceux de Métimne. Alors pourtant ne t'afflige point, mais te lève et t'en vas consoler Lamon et Myrtal, qui sont jetés à terre comme toi, croyant que tu aies été pris et qu'emmené sur les vaisseaux. Demain reviendra ta Chloé avec vos brebis et vos chèvres, et s'y les garderez encore et jouerez de la flûte ensemble. Au demeurant, amour aura soin de vous. Daphnis, ayant ouï et vu telle chose, s'éveilla soudain en sursaut, et, pleurant autant de joie que de tristesse, adora les nymphes prosternées devant leurs images, et leur promit, si Chloé retournait à sauveté, de leur sacrifier la plus grasse de ses chèvres. Et, courant au pin sous lequel était le dieu Pan représenté avec les pieds d'un bouc, 2 cornes en la tête, qui d'une main tenait sa flûte et de l'autre arrêtait un bouquin, l'adora aussi et le pria qu'il lui plût faire promptement revenir Chloé, lui promettant semblablement de lui sacrifier un bouc. Et jusqu'au soir, environ le soleil couchant, à peine cessa-t-il ses larmes et ses vœux pour le retour de Chloé. Enfin, ramassant sa feuillée, il s'en retourna au logis, où il ôta de grand émoi Lamon et Myrtal, et les remplit de liesse, puis mangea un petit et s'en alla dormir. Mais ce ne fut pas sans pleurer, ni sans faire prier aux nymphes, qu'elles lui apparussent encore, et que le jour revint bientôt, et avec le jour, selon leur promesse, Chloé, jamais nuit ne lui fut si longue. Or, voici comme il en alla. Le capitaine de Métimne, ayant navigué à la rame environ 5 quarts de lieue, voulut un petit rafraîchir ces gens-là d'avoir couru le pays, et trouvant un promontoire assez avancé en mer, dont l'extrémité présentait 2 pointes en manière de croissant, abri aussi sûr qu'aucun port, il y jeta l'ancre sous une roche haute et droite, sans autrement aborder, afin que de la côte à toute aventure on ne lui pût faire nul déplaisir, et ainsi permit à ses gens de se traiter et réjouir en pleine assurance. Eux, ayant à bord foison de tout vivre qu'ils avaient pillé, se mirent à manger, boire et faire fête comme on fait pour une victoire. Mais dès que le jour fut failli et que la nuit eut mis fin à leur bonne chère, il leur fut avis soudainement que la terre était tout en feu, et vers la haute mer entendirent un bruissement dans le lointain, comme des rames d'une grosse flotte qui fut venue contre eux. L'un criait aux armes, l'autre appelait ses compagnons, l'un pensait être déjà blessé, l'autre croyait voir un homme mort gisant devant lui. Bref, il y avait tout tel tumulte comme en un combat de nuit. Et pourtant, il n'y avait point d'ennemis. Après une nuit si terrible, le jour vint qui les effraya encore davantage. Car ils virent les boucs de Daphnis et ses chèvres, les cornes tout entortillées de rameaux de lierre avec leurs grappes. Ils entendirent les brebis et béliers de Chloé qui hurlaient comme loups. Elles-mêmes ont la vie couronnée de branchages de pin. Et en la mer, se faisaient aussi choses étranges à conter. Car quand ils pensaient lever les ancres, elles tenaient au fond. Quand ils cuidaient à battre leur rame pour voguer, elles se rompaient. Les dauphins, sautant autour des vaisseaux et les battant de leur queue, en décousaient les jointures. Et entendait-on du haut de la roche le son d'une flûte à 7 cannes, telle qu'en ont les bergers, mais ce son n'était point plaisant à ouïr, comme serait le son d'une flûte ordinaire, mais épouvantait ce qu'il entendait comme l'éclat imprévu d'une trompette de guerre. De quoi, ils étaient tous en merveilleux effroi et couraient aux armes, disant que c'étaient les ennemis qui les venaient attaquer, et ne savait-on par où, Et l'or désirait que la nuit revînt, comme s'ils eussent dû avoir trêve quand elle serait venue. Or n'était celui parmi eux, conservant tant soit peu de sens, qui ne connut clairement que tous ces prodiges venaient du dieu Pan, irrité contre eux pour quelques méfaits, mais il n'en pouvait deviner la cause, n'ayant touché chose qu'ils sussent appartenir à Pan. Jusqu'à ce qu'environ midi, le capitaine, non sans expresse ordonnance divine, s'endormit. Et lui apparut Pan lui-même, disant telle parole: « Ô méchant sacrilège! Comment avez-vous été si forcené que d'oser emplir d'alarme les champs que j'aime uniquement, ravir les troupeaux qui sont en ma protection, et arracher par force d'un saint lieu une jeune fille de laquelle amour veut faire une histoire singulière, et n'avez-vous point eu de crainte ni de révérence aux nymphes qui le vous ont vu faire, ni à moi aussi qui suis le dieu Pan? Jamais vous ne verrez mes thymnes si vous y prétendez porter un tel butin, ni jamais n'échapperez le son de cette mienne flûte qui vous a naguère effrayé. Je vous ferai tous abîmer au fond de la mer et manger aux poissons, si tu ne rends et bientôt Chloé aux nymphes à qui vous l'avez enlevé, et Canthéel ses brebis et tout le troupeau des chèvres. Pourtant, lève-toi sans délai et la remets à terre avec ce que je t'ai dit, et je vous conduirai alors tous deux en vos maisons, elle par terre et toi par mer. » À ces paroles tout troublées, le capitaine Bryaxis, car ainsi avait-il nom, s'éveilla en sursaut, et de chaque galère aussitôt faisant appeler les chefs, commanda qu'on cherchât entre les prisonniers Chloé, jeune bergère, et ce fut fait. Et ils n'eurent pas de peine à la trouver, car elle était assise, la tête couronnée de pain. S'il amène au capitaine, et lui, connaissant bien à cela que c'était pour elle qu'il avait eu cette apparition en dormant, la conduisit lui-même à terre dans la galère capitainesse, dont il ne fut pas plutôt hors que, du haut de la roche, aussitôt, on entend un nouveau son de flûte, non plus épouvantable en manière de l'alarme, mais tel que bergers ont coutume de sonner quand c'est pour mener leurs bêtes au champ, et brebis aussitôt de sortir du navire, courant par l'escale sans broncher, et les chèvres encore mieux, comme celles qui savaient y aggravir et descendre tous lieux escarpés. Puis chèvres et brebis à terre entourèrent Chloé, bondissant, sautelant et bêlant, et semblaient s'éjouir avec elle de leur commune délivrance. Mais les troupeaux des autres bergers et chevriers demeurèrent là où on les avait mis, et ne bougèrent de dessus le tillac des galères, comme n'étant point pour eux le son de la flûte. De quoi tout le monde s'émerveilla grandement, et en loua la puissance et bonté de Pan. Et encore vit-on de plus étranges merveilles en l'un et l'autre élément, car les galères des Métimniens démarrèrent d'elles-mêmes avant qu'on eût levé les ancres, et il y avait un dauphin qui les conduisait, sautant hors de l'eau devant la capitainesse, et sur terre un fort doux et plaisant son de flûte conduisait les deux troupeaux sans que l'on pût voir qui en jouait, si que les brebis et les chèvres marchaient et paissaient en même temps, avec très grand plaisir d'ouïr telle mélodie. C'était environ l'heure qu'on ramène les bêtes au champ après-midi. Daphnis, s'apercevant de tout loin d'une vedette élevée, Chloé avec les deux troupeaux, « Ô nymphe, ô Pan !» s'écria-t-il, et descendu dans la plaine, court à elle, se jette dans ses bras, épris de si grande joie qu'il en tomba tout pâmé. À peine purent leur animer les baisers même de Chloé, qui le pressait contre son sein. Ayant enfin repris ses esprits, il s'enfuit avec elle sous le hêtre, là où, s'étant tous deux assis, il ne faillit à lui demander comme elle avait pu échapper des mains de tant d'ennemis, et Chloé lui conta tout, son enlèvement dans la grotte, son départ sur le vaisseau, et le lierre venu aux cornes de ses chèvres, et la couronne de feuillage de pin sur sa tête. Ces brebis qui avaient hurlé, le feu sur la terre, le bruit en la mer, les deux sortes de sons de flûte, l'un de paix, l'autre de guerre, la nuit pleine d'horreur, et comme une certaine mélodie musicale, l'avait conduite tout le chemin sans qu'elle en vît rien. A donc, reconnaissant d'Asphnis le secours manifeste de Pan et l'effet de ce que les nymphes lui avaient promis, conta de sa part à Chloé tout ce qu'il avait ouï, tout ce qu'il avait vu, et comme, se mourant d'amour et de regret, il avait été par les nymphes rendu à la vie. Puis il l'envoya quérir Dryas et Lamon, et quand tout ce qui fait besoin pour un sacrifice, et lui-même cependant prit la plus grasse chèvre qui fut dans son troupeau, de laquelle il entortilla les cordes avec du lierre, en la même sorte et manière que les ennemis les avaient vues, et après lui avoir versé du lait entre les cornes, la sacrifia aux nymphes, la pendit et l'écorcha, et leur en consacra la peau attachée au roc. Puis, quand Chloé fut revenue, amenant Dryas et Lamon et leurs femmes, ils firent ôter une partie de la chair et bouillir le reste. Mais avant tout, il mit à part les prémices pour les nymphes, leur épandit de la cruche pleine une libation de vin doux, et ayant accommodé de petits lits de feuilles et vertes ramées pour tous les convives, se mit avec eux à faire bonne chère, et néanmoins avait toujours l'œil sur les troupeaux, crainte que le loup, survenant d'emblée, ne fît son coup pendant ce temps-là. Puis, tous ayant bien repu, se mirent à chanter des hymnes aux nymphes que l'ancien pasteur avait composés. La nuit venue, ils se couchèrent en la place même mis les champs, et le lendemain eurent aussi souvenir de Pan. S'y prirent le bouc chef du troupeau, et couronné de branchages de pin, le menèrent au pin sous lequel était l'image du dieu, et louant et remerciant la bonté de Pan, le lui sacrifièrent, le pendirent, l'écorchèrent, puis firent bouillir une partie de la chair et rôtirent l'autre, et le tout étendirent et mit le beau pré sur verte feuillade. La peau avec les cornes fut au tronc de l'arbre attachée tout contre l'image de Pan, offrande pastorale à un dieu pastoral. Et ne s'oublièrent non plus de lui mettre à part les prémices, et s'y firent en son honneur les libations accoutumées. Chloé chanta, Daphnis joua de la flûte, et chacun prit place à table. Ainsi qu'il faisait chez Reli, survint de cas d'aventure le bonhomme Philétas, appartenant à Pan quelques chapelets de fleurs et des moissines avec les grappes et la pampre encore au sarment. Et quand il lui amenait son plus jeune fils Tityr, jeune le petit gars, ayant cheveux blonds et couleur vermeille, air vif et malin, et qui en courant sautait ne plus ne moins qu'un chevreau. Dès qu'ils aperçurent Philétas, ils se levèrent tous, allèrent avec lui couronner l'image de Pan, et suspendirent les moissines du bon Philétas aux branches du pin. Puis, lui faisant place parmi eux, le convièrent à leur repas. Or, quand ces vieillards eurent un peu bu, à donc commencèrent-ils à compter de leurs jeunes ans, comme ils gardaient leurs bêtes au champ, comme ils étaient échappés de plusieurs dangers et surprises d'écumeurs de mer et de larrons. L'un se vantait qu'il avait une fois tué un loup, l'autre qu'après Pan, il n'y avait homme qui sût si bien jouer de la flûte que lui. C'était Philétas qui se donnait cette louange. Daphnis et Chloé le prièrent qu'il leur voulut de grâce montrer un petit de sa science, et quand ce sacrifice fait à Pan, il honora avec sa flûte le dieu amateur de tels sons. Philétas y consentit encore que pour sa vieillesse il se plaignit de n'avoir plus guère d'haleine et prit la flûte de Daphnis. Elle se trouva trop petite pour y pouvoir montrer beaucoup de savoir et d'artifice, comme celle de quoi jouer un jeune garçon seulement. Par quoi il envoya Tityr en son logis, distant d'environ 2 lieues, pour lui apporter la sienne. L'enfant jette là son hoqueton et s'encourt comme un fan de biche. Et cependant Lamon se mit à leur conter la fable de Syringe, pour laquelle apprendre il avait donné à un chevrier de Sicile qui en savait la chanson, un bouquet, une flûte. Cette syringe, leur dit-il, aujourd'hui flûte pastorale, jadis c'était une belle fille, ayant voix mélodieuse et grande science de musique. Elle garde les chèvres, chantait et se jouait avec les nymphes. Pan, qui la voyait au champ garder ses bêtes, jouer, chanter, un jour vient à elle, et la prie de ce qu'il voulait, lui promettant faire que ses chèvres porteraient toutes deux chevreaux à chaque portée. Elle se moqua de son amour, et dit que jamais elle n'aurait ami, non seulement tel comme lui, qui semblait proprement un bouc, mais ni autre quel qu'il fût. Pan l'a voulu prendre à force, s'enfuit. Il la poursuivit. Tant que pied la put porter, elle courut, mais, lasse à la fin de courir, elle se jette en un marais, et là se perd dans les roseaux. Pan coupe les cannes en courroux, et n'y trouvant point la pucelle, connut son inconvénient, et, lors unissant avec de la cire les roseaux taillés inégaux, en signe d'amour non égal, il en fit cet instrument. Ainsi, elle, qui par avant était belle jeune fille, depuis a été un plaisant instrument de musique. L'amant à peine achevait son conte, et bon fit l'étasse de le louer, disant avoir ouï en sa vie chanson si jolie que cette fable, quand Tityre arriva portant la flûte de son père, grande à merveille, composée des plus grosses cannes que l'on trouve accoutrée de laiton par-dessus la cire. On eût dit que c'était celle-là même que Pan fit la première. Philétas a donc se leva, et assis sur son lit de feuillage, premièrement il essaya tous les chalumeaux, voir si rien n'empêchait le vent, et voyant que chaque tuyau rendait le son convenable, souffla dedans à bon escient. S'y semblait proprement un air de plusieurs flageolets jouant ensemble, tant menaient de bruit ces pipeaux. Puis petit à petit, diminuant la force du vent, ramena son jeu en un son tout à fait doux et plaisant, et leur montrant tout l'artifice de la musique pastorale pour bien mener et faire paître les bêtes au champ, leur fit voir comment il fallait souffler pour un troupeau de bœufs, quel son est mieux séant à un chevrier, quel jeu aiment les brebis et moutons. Celui des brebis était gracieux, fort et grave. Celui des bœufs, celui des chèvres, aigu et clair. Et une seule flûte imitait toutes ces diverses flûtes du berger, du bouvier et du chevrier. La compagnie à table écoutait sans mot dire, couchée sur le feuillage, prenant très grand plaisir d'ouïr si bien jouer Philétas, jusqu'à ce que Dryas, se levant, le pria de jouer quelques gaies chansons en l'honneur de Bacchus, et lui cependant leur dansa une danse de vendange, faisant les gestes comme s'il eût tantôt cueilli la grappe au cep, tantôt porté le raisin dans la hotte, puis les mines d'un qui foule la vendange, qui verse le vin dans les jarres, et d'un qui hume, à bon escient, la liqueur nouvelle. Toutes lesquelles choses il fit si proprement et de si bonne grâce, approchant du naturel, qu'ils pensaient voir devant leurs yeux la vigne, le pressoir et les jarres, et Dryas buvant le vin doux. Ayant ainsi le troisième vieillard bien et gentiment fait son devoir de danser, à la fin la baisé Daphnis et Chloé, lesquelles incontinence levèrent et dansèrent le conte de l'amont. Daphnis contrefaisait le dieu Pan, Chloé la belle syringe, il lui faisait sa requête, et elle s'en riait, elle s'enfuyait, lui la poursuivait, courant sur le bout des orteils, pour mieux contrefaire les pieds de bouc, elle feignait d'être lasse, et de ne pouvoir plus courir, et au lieu des roseaux, s'allait cacher dans le bois. Et Daphnis alors prenant la grande flûte de Philétas, en tirant d'abord un son douloureux, comme Pan qui se fut plaint de la jouvencelle, puis un son passionné, comme la priant d'amour, puis un son de rappel, comme cherchant partout ce qu'elle était devenue. Si que le bonhomme lui-même fit les tasses, tout émerveillé, et accourut le baiser, et après l'avoir baisé, lui fit présent de sa flûte, en priant au Dieu que Daphnis la laissât un jour à pareil successeur que lui. Daphnis donna la sienne petite à Pan, et ayant baisé Chloé comme revenue et retrouvée d'une véritable fuite, ramena, jouant de la flûte, ses bêtes aux étables, pour ce qu'il était déjà tard, et aussi fit Chloé les siennes au son des mêmes chalumeaux. Les chèvres marchaient côte à côte des brebis, et Chloé, tout joignant Daphnis, de sorte qu'à chaque pas, ils se baisaient l'un l'autre, et durèrent ainsi jusqu'à nuit close, et en se quittant, complotèrent ensemble de ramener paître leur troupeau le lendemain au plus matin, comme ils firent. Car incontinent que le jour commença à poindre, ils revinrent au pâturage, et ayant premièrement salué les nymphes, puis après Pan, s'allèrent asseoir dessous le chêne, où ils jouèrent de la flûte ensemble, s'entrebaisèrent, s'embrassèrent, se couchèrent l'un près de l'autre, et, sans y faire rien davantage, se relevèrent. Ensuite ils songèrent à manger, et ils buvaient en même sébile du vin mêlé avec du lait. Or, échauffés et rendus plus hardis par toutes ces choses, ils contestaient entre eux d'amour et en vinrent jusqu'à se vouloir assurer par serment l'un de l'autre. Daphnis, allant dessous le pin, jura par le dieu Pan qu'il ne vivrait jamais un seul jour sans Chloé. Et Chloé, dans l'antre des nymphes, jura devant leurs images de vivre et mourir avec Daphnis. Mais elle, comme une jeune et innocente fillette, fut si simple de vouloir que Daphnis, au sortir de l'antre, lui jura un autre serment. S'il lui dit « Ce dieu Pan, Daphnis, est un dieu volage, auquel il n'y a point de fiance. Il a aimé Pythis, il a aimé Syringe, il ne cesse de pourchasser les nymphes et Pymélides, et on le voit toujours après les dryades. Si tu me fausses la foi que tu m'as jurée, il ne s'en fera que rire, voire, quand tu aurais plus de maîtresse, qu'il n'a de chalumeaux en sa flûte. Et comment te punirait-il, lui qui chaque jour fait amour nouvelle ? Jure-moi par ton troupeau et par la chèvre qui te nourrit et l'état que jamais tu ne laisseras Chloé tant qu'elle te sera fidèle. Et là où elle te fera faute, et aux nymphes qu'elle a juré, voilà, et la haie ou la tue, comme tu ferais un loup. » Daphnis prit plaisir à ce doute, et debout au milieu de son troupeau, tenant d'une main un bouc et de l'autre une chèvre, jura qu'il aimerait Chloé tant qu'il en serait aimé, et que, si elle en aimait un autre, il se tuerait au lieu d'elle. Dont elle fut bien aise, et s'en assura plus que du premier serment, croyant les brebis et les chèvres être dieux propres aux bergers et aux chevriers.